Bonsoir Denise, bienvenue dans la ligne de cœur.
Merci, bonsoir.
S'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler de médiumnité, c'est vous. Entre autres grâce aux ouvrages que vous avez publiés et à l'ouvrage auquel on peut faire référence ce soir, qui est donc votre guide de médiumnité, Contact, Guérison, Créativité, paru aux éditions Favre. C'est, je ne sais pas si ça sera perçu comme une provocation, mais c'est pas ce que je recherchais, comme une bible de la médiumnité. Et c'est le moins qu'on puisse dire, vous nous racontez comment, mais vous nous dites aussi pourquoi, et vous nous parlez de vous. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à plein d'autres livres qui ont pu paraître sur ce sujet. Vous nous dites d'abord, qui suis-je? Et alors, si vous êtes d'accord, on va peut-être commencer par ça, puisque c'est le chapitre 1 de votre livre, pas raconter toute votre vie, mais surtout voir en quoi, à un moment donné, vous faites la découverte de cette puissance de la médiumnité.
Alors, la médiumnité est entrée dans ma vie d'une façon consciente, je dirais, le jour où j'ai eu l'occasion, un peu guidée peut-être d'ailleurs, d'entrer dans une école de médiumnité et où je me suis sentie à la maison. Avant ça, bien sûr, j'avais les antennes dehors, on va dire ça comme ça. Et depuis toute petite, j'avais toujours l'impression que justement quand on sortait ces antennes, l'univers nous répondait. Et j'avais un grand-papa qui m'était très très cher, qui est décédé quand j'avais 18 ans. Et j'ai eu la sensation de l'accompagner de l'autre côté. Et c'était plus qu'une sensation, c'était une sorte de révélation. J'ai vraiment eu le sentiment de pouvoir pénétrer un univers qui tout d'un coup était clair, était limpide, mais était fait surtout de sensations, alors que justement, il était parti. Et ça m'a bouleversée sur le moment, mais à partir de là, je me suis amusée, comme vous le disiez en lisant le témoignage de cette auditrice, je me suis souvent demandé s'il pouvait me faire des signes, et oui, il m'en avait fait. Mais je jouais avec ça sans grande conscience que c'était une profession et que c'était quelque chose qui était accessible à tout le monde. Et que lorsque j'ai démarré cette école de médiumnité, en fait, je me suis sentie à la maison et je me suis dit, oh mon Dieu, mais en fait, c'est de la médiumnité que j'ai toujours fait, sans le savoir, en fait, parce que ça m'avait été offert comme une invitation. Et à partir de là, bon, c'était une suite de formations, de rencontres, d'événements qui m'ont confirmé que oui, je le dis aussi ici, nous sommes tous médiums simplement parce que nous sommes tous des âmes et en tant qu'âmes, on peut communiquer d'âme à âme, de vivant à vivant, mais aussi avec nos très chers disparus.
Ça veut dire qu'on peut tous communiquer, on peut tous être un canal entre ces deux mondes que vous définissez comme tel, la médiumnité, on peut tous l'être, mais ou bien seulement les professionnels?
Alors, nous le sommes tous avec beaucoup de naturel, parce que nous sommes tous des âmes. Simplement, parfois, on le fait d'une façon inconsciente, cette communication sensitive. Et je dirais, c'est comme le dessin. Certaines personnes ont un certain talent pour cela, auquel cas, ils en font profession facilement, ou ils arrivent à nommer les choses facilement. Et puis pour ceux qui n'ont pas de don ou de talent, ça s'apprend comme le dessin ou le flamenco, mais chacun peut arriver à un bon niveau de communication, oui.
Alors votre positionnement personnel, c'est la spiritualité laïque. Vous pouvez nous expliquer, il existe une spiritualité d'église ou...
Alors, je fais la différence entre spiritualité laïque et une spiritualité religieuse dans la mesure où, comme médium, en tout cas c'est mon cas, nous ne sommes pas forcément rattachés à une église. Je ne suis pas rattachée à un dogme, à une église, à une religiosité spirituelle, ecclésiastique, mais plutôt à une spiritualité qui simplement veut dire que oui, nous sommes reliés à un monde invisible, nous sommes reliés à plus grand que nous, mais aussi à nos chers disparus, mais cela sans dogme, sans devoir forcément prier, sans forcément devoir fréquenter des églises, simplement c'est un sentiment de reliance, et c'est ça que je définis comme une spiritualité laïque, de non-appartenance à un dogme en fait, ou à une église, une religiosité.
Être médium pour communiquer, guérir, créer, il faut qu'on s'arrête un instant sur ces trois types de contacts. Il y a le contact, la guérison et la création. Alors, parlons peut-être d'abord du contact.
Alors oui, ce qu'on sait moins, c'est qu'effectivement la médiumnité se décline dans différents champs d'application. La médiumnité de contact, c'est la médiumnité où on discute avec le monde spirituel et plus particulièrement avec les défunts. C'est la médiumnité la plus populaire, bien sûr. C'est quand on dit « je suis médium », en général, les personnes nous disent « ah, tu parles avec les morts ». Or, la médiumnité peut aussi s'appliquer pour créer, notamment pour écrire. On peut demander à ses guides spirituels, à ses alliés de l'invisible, une réponse à une question. Et on peut écrire la réponse. Ou il y a certains peintres, plusieurs artistes même, qui atteignent une sorte d'état de grâce et qui disent, naturellement, l'inspiration me vient d'ailleurs. Auquel cas, on appelle ça la médiumnité d'art spirit ou créativité en guidance. Et il y a une autre forme de médiumnité qui est très populaire, qui est la guérison, qu'on appelle rarement médiumnité guérison, bien que le terme maintenant entre dans la conscience collective de plus en plus, mais on peut le décliner sous des noms tels le chamanisme, tels la guérison spirituelle, la prière d'intercession. C'est une guérison en fait qui permet de capter une énergie spirituelle, une énergie divine, pour la canaliser, pour l'offrir à quelqu'un qui en a besoin, dans un but de guérison thérapeutique du corps physique, psychique ou spirituel.
Qui sont ces guides spirituels et pourquoi est-ce qu'ils viennent à un moment donné?
Une vaste question. Alors, de l'autre côté, pour moi, dans mon sentiment, mon expérience, il y a des entités qui viennent lorsqu'on émet une intention, lorsqu'on fait une demande. C'est notre intention, notre demande qui va attirer la bonne personne. Alors, ces guides peuvent être notre ange gardien. Notre ange gardien, c'est l'allié qui va toute notre existence nous accompagner pour nous guider, nous remettre, j'allais dire, sur le droit chemin, je mets des guillemets à droit, bien sûr, qui va nous ramener dans notre mission d'âme, dans le pourquoi nous avons choisi de nous incarner. Ça, c'est, je dirais, notre allié permanent. Et ensuite, il y a des guides pour écrire, pour guérir, pour communiquer, qui sont là, en fait, pour améliorer la vie, nous amener plus d'amour, plus de solidarité, et qui ont comme une fonction, en fait, d'aider les humains incarnés. Je dis les humains incarnés parce que je pense que incarnés et désincarnés, nous avons à travailler main dans la main, dans une alliance, dans une co-création, je dirais, permanente. Et ces guides sont appelés par notre intention et résonnent, en fait, à notre vibration. Ça veut dire que plus on a des vibrations élevées, plus on est dans une forme de d'altruisme, de spiritualité généreuse, je vais dire, plus le guide aura une lumière, une vibration haute. Et ils répondent toujours à nos demandes. Je n'ai jamais vu personne qui ne reçoive pas de demande à sa prière ou à l'intention posée. Après, c'est plutôt nous qui avons une certaine faculté ou non de les entendre, de les comprendre. Mais eux, ils sont là.
Alors, le médium, parce que ça c'est une question essentielle évidemment, et que vous vous êtes posée, que vous abordez dans votre livre, il est au service de quoi?
Alors, on peut choisir, si nous sommes au service du vivant, je dirais que c'est plutôt le cas des thérapeutes. Un thérapeute qui élargit son champ d'inspiration, son champ de conscience à la spiritualité va rester au service du vivant. Mais pour ma part, au départ j'étais cinéaste et pas thérapeute. Oui. Donc dès lors que j'ai rencontré la médiumnité, j'ai fait le choix de me mettre plutôt au service du monde spirituel et donc d'obéir, je mets des guillemets de nouveau à obéir, mais d'être au service de leurs besoins. Par exemple, s'ils désirent faire passer un message auprès de nous, eh bien de me mettre au service en écrivant un livre, par exemple.
D'accord.
L'impulsion vient d'eux.
D'accord.
Oui.
Ça veut dire que c'est eux qui vous guident dans l'écriture d'un livre comme celui auquel j'ai fait référence tout à l'heure, le guide de la médiumnité, par exemple.
Oui, par exemple, oui. Mmh.
Je me posais aussi une question, vous l'avez évoqué il y a un tout petit moment. Est-ce qu'on peut être un médium qui s'ignore? Et comment ça se révèle, le fait qu'on est un médium qui s'ignore?
Alors, je dirais il y a deux cas de figure. Il y a les médiums qui s'ignorent, qui en souffrent. Et là, ça se manifeste par ce qu'on appelle la sensitivité, pas la sensibilité, mais sensitivité. Ça veut dire que, vous voyez, une souffrance qui accompagne ce savoir-être, ce savoir-faire, parce qu'on est un peu comme des éponges. Ça veut dire qu'on va avoir la perception des personnes invisibles sans pouvoir les nommer, sans savoir ce qui nous arrive. Mmh. Ou si on entre dans un lieu, on a la perception de la vibration du lieu, qu'il soit positif ou négatif. Donc, les médiums qui s'ignorent, en général, sont submergés par des sensations qu'ils ne savent pas très bien à quoi attribuer. Une autre forme, plus joyeuse, c'est peut-être des gens qui, spontanément, comme je l'ai fait à l'époque avec mon grand-père, discutent avec le monde spirituel sans avoir jamais appris, simplement parce qu'ils ont ce talent. Et on voit parfois chez les enfants, des enfants qui gardent cette faculté que tous les enfants ont quand ils sont tout petits. Mais normalement, on perd cette faculté autour de l'âge de 7 ans. Et certains enfants ne referment pas les portes. Et du coup, gardent cette faculté et discutent, voient des invisibles. Et il y a pas mal de témoignages d'enfants hein, qui racontent discuter avec un ami invisible, voir leur grand-mère qui n'est plus là. Auquel cas, ce sont des médiums qui s'ignorent et ils le font naturellement parce que c'est un organe de perception que tous les humains, nous avons.
Je voulais vous poser une question, Denise, à propos du témoignage qu'on a eu de Martine, qui nous a raconté qu'elle a perdu sa fille il y a 3 mois, que sa fille a choisi de nous quitter. J'imagine que c'était un suicide. Et j'aimerais savoir comment elle va, si elle est enfin heureuse. Et elle nous posait la question, parce que j'ai entendu que tout le monde pouvait être un médium. J'attends un signe, j'aimerais savoir comment faire. Donc il y a une attente, mais là, c'est pas si simple comme ça. On peut pas juste attendre et puis se dire, la personne va venir nous faire un signe, je suppose.
Alors, par rapport à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un par suicide, je tiens à dire que de l'autre côté, de mon expérience et de par les enquêtes aussi que j'ai faites, qui sont quand même assez nombreuses, hein, c'est pas le premier livre que j'écris sur le sujet, et j'ai eu l'occasion de discuter avec une centaine et plus de médiums qui sont des canaux qui aident le passage, comme on dit. Les suicidés ne sont pas punis de l'autre côté. En général, ils vont bien. Il y a une transition qui se fait pour tous les défunts de la même façon dans la lumière, quelle que soit la façon de mourir. Ça, c'est important de savoir parce que très souvent, même chez des athées, il y a ce questionnement. Hein, quand on a perdu quelqu'un par suicide, étant donné qu'on a beaucoup entendu quand même que les suicidés étaient punis, que ce n'était pas permis, il y a cette appréhension. Donc ça, je tiens à le dire, nous, quand on rencontre des suicidés et qu'on leur parle, ils ne sont pas différents de quelqu'un qui serait mort de maladie ou de vieillesse. Et ensuite, les signes. Alors moi, ce que je recommande de faire quand on n'est pas médium et qu'on n'a pas appris à discuter, c'est de demander un signe extrêmement clair du style « Si tu m'entends, peux-tu me montrer un hibou ou un éléphant rose dans les 24 heures ?» Et j'invite à faire une demande particulière comme un éléphant rose, parce qu'évidemment, si on demande à voir, je sais pas, un chat, il y avait des chances que dans les 24 heures, on le voit, le chat. Alors que si on demande un éléphant rose,
oui, ça,
il y a peu de chance,
oui.
N'est-ce pas?
Oui.
Et pourquoi poser un délai? Parce que notre cerveau humain n'est pas capable de tenir la concentration très longtemps. Au bout de 24 heures, on va zapper, on va penser à autre chose. Et même si on voit le signe, on le remarquera peut-être pas. Donc en fait, de mettre un délai, c'est important juste pour nous rester concentrés et demander quelque chose de particulier, c'est important aussi. Alors vous me direz, oui, mais d'accord, mais les éléphants roses, on les voit où? Alors ce peut être, on allume la télévision et paf, on tombe sur un dessin animé où il y a un éléphant rose. On regarde le pyjama de sa fille, ça c'est ce qui m'est arrivé moi la première fois que j'ai demandé un signe, et sur le pyjama de sa fille, il y a un éléphant rose. Donc voilà, ça peut être à la radio aussi, quelqu'un qui parle d'un éléphant rose. Donc les signes peuvent venir de nombreuses façons et souvent il faut ouvrir le champ des possibles. Ça vient d'une façon surprenante et assez naturelle. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que quand le signe ne vient pas, c'est pas du désamour de la part de nos défunts, c'est pas qu'ils ne nous font pas le signe, c'est peut-être qu'on l'a pas vu ou il y a aussi à s'incliner devant une part de mystère. Parfois ils sont occupés ailleurs ou il y a quelque chose dans l'autre monde, n'est-ce pas, qui nous échappe. On ne sait pas tout, même si on est médium. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a des défunts qui viennent facilement et souvent, et puis d'autres qui ne viennent jamais nous dire coucou. D'accord, mais c'est pas du désamour, c'est pas qu'ils sont empêchés de le faire. C'est qu'il y a probablement, il y a aussi une organisation de l'autre côté qui fait que pas tous les défunts ont accès à nous vivants. Donc surtout ne pas entrer en tristesse ou dans un sentiment d'échec ou de se dire « Ouais, là, moi j'y arrive pas » ou « Il ne veut pas ». C'est pas le cas. Auquel cas, ce que je recommande, c'est de réessayer 2-3 mois plus tard.
Alors justement, on a reçu un WhatsApp au 076 318 9649 qui nous dit « J'avais cru comprendre qu'un défunt part dans un délai de 72 heures ».
Oui, je confirme. Très souvent, les défunts, dans les jours qui suivent la mort, sont très faciles d'accès, mais très maladroits, comme s'ils n'avaient pas été formés à la communication avec nous. C'est-à-dire que là, souvent, on a des signes, mais des signes qui sont vraiment pas de l'ordre de la communication, qui sont plutôt de l'ordre du signe qui fait un peu peur, de type une radio qui s'allume, une porte qui claque, une ampoule qui pète, une photo qui tombe. D'accord ? Ce sont des manifestations physiques maladroites parce qu'ils ne sont pas formés. Et au bout de 72 heures, c'est la norme, hein, ça peut être un peu moins, un tout petit peu plus, le défunt va transiter de l'autre côté et il y a comme une formation qui se fait. Et souvent, ils disparaissent, ils sont très difficiles à contacter pendant 3-4 mois. Et après, lorsqu'ils reviennent, c'est vraiment des entités de lumière qui ont fait leur transition et qui savent communiquer avec nous. Ça veut dire qu'ils vont nous envoyer non pas des signes qui font peur, avec des portes qui claquent ou des ampoules qui pètent, mais plutôt des images, des sons, des perceptions, quelque chose qui est plus doux.
Merci beaucoup Denise Kikoujian. Je rappelle que vous travaillez comme médium, guérisseuse, coach en créativité, vous êtes formatrice, cinéaste et vous êtes la fondatrice de l'atelier Infini. Merci infiniment. Et puis votre livre, paru aux éditions Favre, tout à fait passionnant, même pour ceux qui sont pas nécessairement des directement concernés, hein, je dirais, mais vraiment pour tout le monde. C'est le guide de médiumnité paru donc aux éditions Favre. Contact, guérison, créativité que vous avez écrit Denise Kikoujian avec le soutien de Nathalie Ogui. Voilà, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci infiniment.
Mais merci à vous.
Et bonne nuit à vous. Merci.
Oui, bonne nuit.
Au revoir. Merci.